deuxième était le slow.
Bienvenue dans l'émission Pourquoi pas des philosophes, avec aujourd'hui pour invité Monsieur Pierre-Marie Morel, professeur de philosophie à l'ENS de Lyon. Donc le mieux c'est qu'on vous laisse vous présenter vous-même en vous posant quelques questions. Donc tout d'abord, on voulait vous demander, comment avez-vous rencontré la philosophie ?
Écoutez, votre question m'a donné l'occasion d'y réfléchir, parce qu'à vrai dire, j'avais oublié. Donc ça veut dire que ça fait un certain temps. Je ne sais pas si c'est moi qui l'ai rencontré. Je pense que ça a d'abord été une rencontre ratée, qui a dû commencer quand j'étais en seconde, où notre professeur de français nous avait donné un exercice assez stimulant, il faut bien le dire, qui était l'exercice de la lettre ouverte. Il fallait qu'on imagine une lettre ouverte à quelqu'un qui en voulait. Alors, les uns ont choisi lettre ouverte à ma grande sœur, qui ne veut pas que j'entre dans sa chambre et que j'emprunte ses disques, lettre ouverte à ma mère, qui ne me laisse pas sortir le samedi. Et moi, dans une posture beaucoup plus austère, j'avais choisi lettre ouverte aux autres. Et donc, c'était plein de bonnes intentions, c'était une invitation à l'ouverture à autrui, l'ouverture d'autrui à soi-même, etc. Bref, rencontre ratée parce que j'ai pris la philosophie par le biais du moralisme. C'est-à-dire, je croyais à 14-15 ans, que la philosophie, c'est d'abord faire la morale, faire de la morale. Et puis, après, évidemment... J'ai fait quelques lectures. Je pense que la deuxième chance qui m'a été donnée dans mon rapport à la philosophie, vous allez voir, c'est très classique, c'est Voltaire, en fait. C'est-à-dire que ça peut faire sourire aujourd'hui, mais franchement, quand j'ai lu Candide 2 ans plus tard, ça a été véritablement une révélation. Et là, j'ai vu que la philosophie, au lieu d'être moralisatrice et sérieuse, pouvait d'abord être ironique, voire drôle, parce que, je ne sais pas, mais moi, Voltaire et Candide en particulier, ça me fait beaucoup rire. Et je pense que c'est là que j'ai commencé à m'intéresser vraiment à ce que c'était que la philosophie, être ironique, ne pas être dupe, et je pense que là, c'était vraiment un départ.
D'accord, et comment vous êtes venu à en faire finalement votre métier ?
Après, il y a les contingences de l'histoire personnelle, mais disons que le facteur principal, c'est sans doute l'amitié. Et après tout, pour faire de la philosophie, c'est pas une mauvaise relation causale que de la faire par amitié. Effectivement, j'avais un ami en classe prépa qui se destinait à la philo, qui était vraiment plongé dedans. Moi, je regardais ses textes avec un peu de perplexité. Je savais pas trop comment. J'étais pas très à l'aise à cette époque-là pour me mouvoir dans la dialectique transcendantale de la critique de la raison pure, alors que lui, il la maîtrisait parfaitement. Donc, à défaut de peser et de maîtriser le contenu de sa passion, c'est par amitié pour lui que je me suis orienté vers la philosophie.
Et alors, vous parliez de Kant à l'instant. Quelle est finalement, à part aussi Candide, quelle est la première lecture véritablement philosophique, même si Voltaire c'est aussi philosophique, qui vous a marqué en fait dans vos études ?
Alors là aussi, c'est compliqué parce que en fait, tout était un peu entremêlé. Je sais que, disons, Hippocagne, Cagne, début des années 80, il y avait encore une forte empreinte heideggerienne dans la formation des étudiants et dans nos lectures. Et je pense que, bien qu'aujourd'hui j'ai des préoccupations tout autres, je pense que Heidegger, sans doute aussi du fait de l'aura de mystère qui l'entourait à mes yeux, que Heidegger a suscité pas mal d'intérêt. Hein. Ça c'est indéniable. Et probablement, du coup, au travers d'Heidegger, un intérêt pour l'exégèse des textes antiques et pour une manière de relire les textes antiques. Et donc, je voulais les lire autrement que l'institution nous invitait à le faire, autrement que mes professeurs m'invitaient à le faire, parce que je pensais qu'il fallait dépoussiérer tout cela. J'étais plein d'ambition à ce moment-là.
À part les lectures marquantes, est-ce qu'il y a eu aussi peut-être des rencontres avec une personne vivante, un philosophe, un professeur ou une autre personne qui a particulièrement marqué votre parcours ?
Mon problème, c'est que j'ai beaucoup de mal à reconnaître un philosophe quand je me promène dans la rue, donc j'ai dû passer à côté d'un certain nombre de grands philosophes. Mais en tout cas, j'en connais beaucoup parmi mes collègues et mes amis actuellement. Et à vrai dire, j'ai du mal à dégager, si vous voulez, dans le véritable paysage philosophique, des figures dont on pourrait dire que ce sont de grands philosophes. Donc, non, je pense que c'est plutôt en discutant, en dialoguant, parfois avec véhémence, avec mes camarades d'études, puis après avec mes collègues, que j'ai rencontré des philosophes, plutôt qu'à fréquenter des gens importants.
Alors, ce qui m'étonne dans ce que vous avez dit pour l'instant, c'est que ce qu'on pourrait se demander, pourquoi la philosophie comme métier et pas un autre. Alors, ça pourrait être arbitraire de vous demander ce que vous avez visité avec un autre métier, pourquoi la philosophie et pas autre chose. En même temps, apparemment, c'est par l'amitié que vous en êtes venu à faire de la philosophie, du moins en faire d'abord votre préoccupation première et ensuite votre métier. Est-ce que vous pensez que philosophe, c'est le métier où l'amitié tient une place privilégiée? Vous travaillez dans une école, vous travaillez en équipe. Est-ce que ça peut être une profession où, disons, les âmes sensibles à l'amitié s'épanouissent le mieux?
Oui, ou les âmes sensibles tout court. Oui, je pense que l'amitié, ça joue un rôle important, y compris dans ses vicissitudes. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au début du Dekiwe, la fameuse page « L'homme est un loup pour l'homme », un des exemples que prend Hobbes pour évoquer les sociétés où règne le conflit permanent et la comparaison entre les individualités, c'est la société des philosophes. C'est-à-dire qu'effectivement, les philosophes sont inconfortables, sans doute à autrui, mais d'abord inconfortables les uns aux autres. Donc, ces amitiés sont parfois très fortes, et notre mode de fonctionnement institutionnel favorise cela. C'est une chose très, très positive, très importante. Et ces amitiés sont aussi conflictuelles, bien souvent. Et c'est ça aussi qui est très intéressant. C'est très intéressant parce que très souvent, ça nous reconduit vers le concept, vers des interrogations fondamentales. Et ça nous amène très souvent à nous départir de nos affects ou revoir nos affects, réfléchir de manière critique sur eux, pour y revenir sans doute ensuite. Et je pense qu'effectivement, ce rapport entre amitié et philosophie que vous soulignez, Camille, est vraiment important. Et de fait, il y a toute une tradition qui le construit, ce rapport, par exemple, dans l'épicurisme antique, pour qui le sage vit dans un cercle d'amis par essence.
Spécialiste de philosophie antique et par exemple Pierre Hadot a montré que justement la philosophie antique se définit d'abord comme un mode de vie, comme une sagesse, une pratique qui est d'abord transformation donc des autres, du monde et de soi-même surtout. Et donc on a parlé de métier, de vocation à devenir enseignant, donc enseignant-chercheur, d'amitié entre collègues, donc un vocabulaire voilà, du travail, du bureau. Et est-ce que, en tant que spécialiste justement de cette philosophie antique particulièrement, je pense que cette question est valide pour tous les philosophes, est-ce que vous ressentez un hiatus justement entre la philosophie pratiquée comme un métier et la philosophie comme mode de vie? Est-ce qu'il y a un hiatus qui existe entre les deux? Est-ce que comment arrivez-vous à le résoudre?
Alors, l'amitié va bien au-delà du bureau et des philosophes, heureusement. Alors, vous posez plusieurs questions qui sont effectivement tout à fait centrales, à mon sens. L'interrogation qu'on partage ici sur ce que c'est que faire de la philosophie, et qui sont centrales aussi pour la tradition qui, moi, m'intéresse au premier chef, c'est-à-dire la philosophie ancienne. Alors, je pense que ce que Pierre Hadot a souligné, mais pas seul non plus, enfin Foucault l'a montré aussi dans l'histoire de la sexualité avec d'autres instruments d'analyse, ce qu'ils ont souligné, c'est effectivement l'idée que pour un certain nombre de philosophes de l'Antiquité, la philosophie ne pouvait pas se réduire à une construction théorique, ni même à la formulation de prescriptions les plus rationnelles possibles sur la conduite de la vie, que la philosophie c'était aussi une attitude, une manière de vivre, même si c'est une attitude intellectuelle qui en passe par ce que Pierre Hadot a popularisé sous le nom d'exercice spirituel, qui en passe par ces exercices, exercice spirituel, dit Pierre Hadot. Alors, par rapport à cela, moi j'ai tendance à réagir de deux manières, si vous voulez. D'abord, sur la notion même d'exercice spirituel, puisque vous me parlez d'Hadot, je reviens un peu là-dessus, parce que souvent, et sans doute... Pierre Hadot lui-même n'avait pas envisagé cette dérive, mais souvent il y a une dérive qui consiste à réduire justement la philosophie ancienne à cela, hein, c'est-à-dire et à une image du sage, notamment du sage de la période hellénistique, donc post-aristotélicien, du sage dont la préoccupation principale est finalement d'être dans une situation relativement confortable avec lui-même, cultiver son intériorité, travailler sur ses propres représentations, comme s'il était coupé de la pratique elle-même, de la vie avec autrui, de la politique, des savoirs positifs, c'est-à-dire des sciences, etc. Et comme si cette, entre guillemets, spiritualité n'avait rien d'incarné. Je ne pense pas que ce soit ce que veut dire exactement Hadot, mais vous voyez, c'est plutôt une espèce d'interprétation de ce qu'il a voulu dire. Et ce qu'on voit bien souvent, c'est que ces exercices dits spirituels sont en réalité des exercices physiques. Vous voyez, les épicuriens, par exemple, Épicure invite sans cesse à méditer la doctrine, à l'intérioriser et du même coup à constituer en soi-même des espèces de schémas mentaux qui sont des traces matérielles, puisque l'âme elle-même est matérielle pour les épicuriens, des schémas mentaux qui correspondent aux éléments de la doctrine, et ce sont ces schémas extrêmement conscients et ramassés qu'on devra se remémorer dans l'action, en situation, lorsque nous devons décider si nous prenons part à la vie politique, par exemple. Il s'agit donc d'intérioriser, mais sur un mode à la fois intellectuel et physique, les principes fondamentaux de la conduite. Le deuxième point qui m'intéresse par rapport à cette question du rapport entre philosophie et pratique, conduite de la vie personnelle, c'est s'il y a un hiatus entre... la philosophie comme métier et la pratique, c'est sans doute nécessaire. C'est sans doute même peut-être quelque chose de consubstantiel à la philosophie d'être toujours un peu décalé, toujours un peu en situation d'écart par rapport à l'urgence des situations. Et si le philosophe est souvent maladroit, s'il bafouille, s'il ne sait pas comment faire voter comme Socrate dans le Grand Gias, au moment où c'est son tour de faire voter les autres, ça révèle sans doute aussi quelque chose, à mon avis, d'essentiel à la pratique de la philosophie. Parce que ça nous invite, du coup, à prendre un peu de distance par rapport à l'urgence apparente des événements.
Oui, donc le rôle, finalement, du philosophe de la société serait un espèce de balbutiement, un décalage. On ne comprend pas très bien quel peut être un rôle positif du philosophe. Sinon, là, ce retrait, cette distance, qui serait une non-assurance propre à une pratique particulière. Comment est-ce qu'on peut parler d'un rôle positif du philosophe ? Quel serait, à votre avis, le rôle du philosophe dans la société ?
Voilà, c'est la question. On arrive directement à cette question, qui est, je pense, la question qui a dominé la vie intellectuelle européenne à partir des années 50. C'est le fameux problème de l'engagement, pour reprendre le thème sartrien, mais ça a aussi été le problème des marxistes, des structuralistes. Ça a été... pendant toutes ces années-là, évidemment, une question cruciale parce que il fallait se définir par rapport à un mode d'engagement. Et il fallait s'engager et se définir par un mode d'engagement. Ensuite, on a eu, à mon sens, un mouvement un peu inversé. C'est toujours souvent comme cela que les choses fonctionnent, une espèce de mouvement un peu rétrograde au sens neutre, où au contraire, il y a eu un désenchantement de l'engagement, on s'est désillusionné. Et là, je pense qu'au milieu des années 80, on a vraiment ressenti cela. De sorte qu'aujourd'hui, où de nouveaux engagements apparaissent dans la vie intellectuelle européenne et internationale, à nouveau, la question se pose. Et je dois dire que, pour ma part, je ne souhaite pas qu'on réduise la pratique de la philosophie à cette question-là. Je pense que cette question est importante, mais en même temps que l'injonction de prendre position par rapport à l'événement immédiat ne concerne pas nécessairement le philosophe. Il y a eu, dans les années 90, en Italie, Italie qui a été très marquée justement par le problème de l'engagement ces dernières années, une discussion entre Umberto Eco et Antonio Tabucchi sur la fonction de l'intellectuel par rapport aux événements sociaux. Et la position d'Umberto Eco est que lorsque la maison brûle, il serait stupide d'appeler le philosophe plutôt que d'appeler les pompiers. Et Tabouki, lui, adoptait une position différente, prônant au contraire justement l'engagement et invitant l'intellectuel à intervenir de manière créative par rapport aux problèmes sociaux. Il me semble que dans ce que dit Umberto Eco, il y a quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue, à savoir que l'intellectuel n'a pas toujours les bonnes réponses, mais ce qu'on va attendre de lui d'abord, c'est qu'il ait les bonnes questions. Au moins. Et il y a des situations où il faut des réponses. Je ne suis pas sûr que l'intellectuel soit toujours en mesure de les apporter, le philosophe en particulier. Mais justement, ce n'est pas forcément un reproche à lui adresser, c'est peut-être une piste pour s'interroger sur ce que c'est justement qu'un philosophe face à la société.
Et ça veut dire que l'engagement philosophique dans la vie quotidienne du philosophe passerait forcément par une sorte de timidité philosophique dans l'espace public, de fragilité, si on est là pour poser des questions et pas nécessairement pour y répondre, ça implique un rôle particulier qui ne soit pas un rôle de décideur. Là encore, c'est les thèmes antiques, c'est le droit philosophe. Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait écho, qui vous intéresse
mais pas timidité, au contraire, fermeté. C'est-à-dire savoir ne pas nécessairement répondre aux injonctions. Quand on nous somme de donner des réponses sur des questions qui n'ont pas été pensées, lorsqu'on vous somme dans l'espace médiatique, notamment de répondre en 2 minutes à des questions absolument fondamentales, de bioéthique ou d'autres, à mon avis, ce n'est pas pertinent. Et à ce moment-là, le devoir même du philosophe, et là, ce n'est pas de la timidité, c'est vraiment de la rigueur, c'est de dire, moi, je ne prends pas part à un débat comme ça. Si on veut nous imposer des débats dans des conditions toutes faites, comme cela s'est vu assez récemment sur ce que peut être que l'identité nationale, ça ne veut pas dire que le débat est absolument illégitime, mais ça veut dire qu'en tout cas, nous ne sommes pas sommés d'y répondre dans les termes où les questions ont été posées ailleurs, sans qu'on ait un contrôle de la manière dont ces questions ont été initialement formulées. Donc vous voyez, je pense que la timidité, si la timidité est une forme de réserve, oui. Mais en tout cas, si c'est une question, si c'est une inhibition, non. Et je pense que précisément, résister à la temporalité médiatique, ça fait partie de notre travail.
En parlant de cette inscription du philosophe dans la pratique, donc là, ici sociale, j'aimerais vous poser une question un peu brutale pour voir justement comment vous tentez d'y répondre. Mais tout simplement, en quoi vivez-vous comme un philosophe?
Ah ben, j'aimerais bien le savoir. Et si j'étais philosophe, je ne vois pas. Disons qu'en tout cas, et je pense que c'est la même chose pour vous qui faites des études de philosophie, lorsque on fait des études de philosophie, qu'on lit de la philosophie et qu'on gagne sa vie avec, et j'en suis fort heureux, on se pose nécessairement la question. Mais là encore, j'aimerais bien avoir, dans ma conduite personnelle, à tous égards, public et privé, une cohérence parfaite, montrer que je suis porté par un système en chacun de mes actes. Malheureusement, personnellement, je n'y arrive pas. Peut-être que d'autres y arrivent et je les en félicite. En même temps, je me dis peut-être que se comporter en philosophe, c'est justement être toujours un peu inquiet sur ce point, au moins être inquiet sur ce point. Si j'étais philosophe, je ferais comment? Alors, comme j'essaye de l'être, mais je ne le suis pas vraiment, j'échoue. Mais au moins, j'ai une espèce d'idée régulatrice de ce que pourrait être agir en philosophe. Ça me semble peut-être plus crédible, si vous voulez, que l'idée d'une posture constante et permanente, d'un style de vie qui serait proprement philosophique.
Et quelle serait cette idée régulatrice alors?
Vous voyez, le mot qui me vient le plus spontanément à l'esprit, c'est encore le mot de distance, c'est-à-dire être capable d'imposer aux événements une sorte de temporalité, ou en tout cas de s'imposer à soi-même une certaine temporalité, de distance et de lenteur dans la manière de voir les choses, justement pour ne pas être toujours sommé de réagir et du coup d'être dans une forme d'hétéronomie permanente, être toujours déterminé par des mobiles extérieurs.
Cette distance, pour recroiser encore un thème antique, est-ce que c'est, on peut la traduire comme une méfiance par rapport à l'opinion, par exemple?
Oui, sans doute, méfiance par rapport à l'opinion. Et puis, alors avec cette ambivalence de cette méfiance, qui est que, évidemment, cette attitude peut très vite tourner au contentement de soi, à une espèce de hauteur ou de dédain. Et à ce moment-là, on peut très bien négliger ce que dans l'opinion, il y a aussi de légitime et de nécessaire. Donc c'est à manipuler avec beaucoup de précaution, évidemment.
Je voulais revenir sur une question que je vous ai posée tout à l'heure, savoir pourquoi le choix de la philosophie antique, choix de spécialisation, mais dans une question un peu plus naïve. Est-ce que c'est un choix qui aurait été motivé par une sorte de regret dans l'évolution de l'histoire des idées, une sorte de reproche particulier adressé à la philosophie moderne ?
À titre personnel, non. À titre personnel, non. Je pense que la philosophie ancienne n'est pas comptable devant la modernité de ses résultats. Nous n'avons pas à l'évaluer à l'aune du contemporain. Mais c'est un instrument formidable, à mon sens, pour s'interroger sur le contemporain. C'est-à-dire que, vous voyez bien ce que je veux dire, c'est que l'histoire de la philosophie ancienne n'est pas réductible à des interrogations contemporaines. Elle a sa fin en elle-même, mais en même temps, elle nous permet de prendre ces distances analytiques qui nous permettent de porter un autre regard sur le contemporain et ce qui semble le plus neuf, le plus fascinant et le plus brillant. Donc, non pas contre la modernité et l'époque contemporaine, mais pour regarder la modernité et l'époque contemporaine autrement. Si vous voulez, par exemple, je vous donne un exemple. La fin du De Rerum Natura de Lucrèce. Les formidables passages sur la peste d'Athènes, où l'on voit la panique sociale qui s'empare de la cité, et comme le dit Lucrèce à un moment, les liens d'amitié qui réunissaient les gens, on revient à cette question de l'amitié de tout à l'heure, se désagrègent. Et on voit très bien comment, dans cette panique collective face à l'épidémie, si on traduit les choses en termes plus contemporains, toute forme de solidarité, finalement, est abolie. Et ce repli sur soi qui semble être la solution est en fait bien pire encore que le mal collectif.
On avait sélectionné pour vous une phrase de La Fontaine, encore une fois un peu naïve, parce que c'est vrai qu'on s'interroge sur le choix de la philosophie ancienne. La Fontaine, dans une fable, dit « Nous ne saurions aller plus avant que les anciens. Ils ne nous ont laissé pour notre part que la gloire de les bien suivre. » Cette idée de suivre un ancien dans sa pensée, dans sa pratique, c'est particulièrement intéressant quand on réfléchit sur la vie pratique d'un philosophe. Est-ce qu'on irait bien suivre Kant dans sa vie pratique ? Est-ce qu'on irait bien suivre Nietzsche dans ses choix incroyables ? Est-ce qu'on irait... L'idée de philosophie comme sagesse, qui a été une idée quand même importante, est-ce que c'est pas quelque chose qui est au fond la seule chose qui compte dans la vie d'un philosophe ? Je dis pas dans son métier d'enseignement, mais dans la vie. Et est-ce que c'est pas chez les antiques qu'on la trouverait le plus réalisée, l'idée de faire de sa vie une œuvre d'art qui est au fond un thème moderne qui nous fait revenir à l'antique ?
Oui, ça, je pense que sur ce point-là, s'y suivre veut dire non pas simplement se contenter de répéter à l'envi et de proclamer l'autorité des doctrines antiques, mais s'y suivre, ça veut dire prendre exemple pour intérioriser la pratique de la philosophie. Je suis assez d'accord pour dire qu'il y a quelque chose de spécifique dans la philosophie ancienne. Et que de ce point de vue-là, ce que l'on disait tout à l'heure à propos de Pierre Hadot se justifie pleinement. En même temps, peut-être que justement cet engagement dont on parlait tout à l'heure, c'est la face contemporaine, la face renouvelée de cette problématique de l'adhésion de la philosophie à la pratique.
Et pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure sur la nécessaire distance du philosophe par rapport à l'événement, vous ne remettiez pas non plus en doute l'idée que la tâche du philosophe, c'était de penser son temps. Et non, c'est pas ça ?
Si, tout à fait. Non.
Et en fait, je me posais la question par rapport à vos publications à vous, c'est-à-dire que vous êtes l'auteur d'une introduction à Aristote, d'une introduction à Épicure aussi. Je cite pas tout, mais je viens d'apprendre encore tout à l'heure qu'il y avait une nouvelle traduction d'Épicure qui était signée de votre main. Vous travaillez sur Plotin également, et je voulais savoir en quoi, par exemple, pour les problèmes de notre temps. Ce qui m'intéresse dans ces ouvrages, c'est que c'est des introductions à la lecture, des nouvelles traductions. Vous traduisez pour la modernité, vous voulez faire lire les modernes, ces philosophes. Pour répondre à quel problème ?
Je ne suis pas sûr que ce soit pour résoudre des problèmes, peut-être pour les formuler autrement en tout cas. Disons que ce décalage inévitable appelle un travail de traduction, c'est ce que vous disiez. Le fait de proposer, notamment aux étudiants, des introductions, comme celles que vous évoquiez tout à l'heure, c'est aussi un exercice de traduction. C'est pas non plus nécessairement une injonction à penser autrement. Voilà, c'est une possibilité qui est offerte, simplement une voie qui est facilitée. Disons que là encore, l'avantage de revenir sur les philosophies anciennes et de renouveler la perception qu'on en a est comparable à celui qu'on trouve à voyager. Quand vous allez dans différents pays, vous remarquez qu'il y a 1000 manières de se dire bonjour. L'accolade brésilienne et la manière qu'on a de se serrer rapidement la main en Europe du Nord, il y a des différences fondamentales. Enfin, on palpe quelque chose de tout à fait fondamental. Et du coup, une autre manière d'entrer en relation avec autrui. Il me semble que l'histoire de la philosophie, en particulier de cette philosophie un peu tombée en désuétude, qu'est la philosophie ancienne, c'est le moyen de voyager intellectuellement et d'appréhender une diversité dans les visions du monde. Et s'il y a quelque chose, encore une fois, qui doit passer au travers de ce que j'essaie d'écrire, c'est peut-être ça, attirer l'attention sur les différents rôles intellectuels qu'on peut jouer dans notre observation des phénomènes, dans notre observation des sociétés, dans notre observation des sciences, les différents rôles intellectuels qu'on peut jouer si l'on se glisse dans la peau d'Aristote, d'Épicure, de Plotin.
Merci beaucoup, Monsieur Morel. Alors, pour finir cette émission, on voulait vous poser une dernière question qui serait plutôt adressée aux jeunes philosophes qui nous écoutent. Donc, on voudrait vous demander un conseil, une direction qu'on pourrait prendre. Donc, en fait, on voudrait savoir quelle est la tâche la plus urgente de la philosophie aujourd'hui, selon vous.
Je n'ai pas tellement donné des conseils, parce que normalement, lorsqu'on donne des conseils, et s'ils sont suivis, on est comptable des erreurs qui peuvent s'en suivre. Donc, personnellement...
Oui, c'est sans engagement.
C'est sans engagement. Alors, je dirais...
C'est dangereux, un conseil sans engagement.
Oui, mais enfin, après tout, c'est aussi dans l'air du temps. Je dirais que... S'il y a quelque chose, on peut dire un tas de banalités, hein. Faites ce qui vous fait plaisir, suivez votre désir profond, soyez vous-même, etc. Moi, une chose qui me tiendrait à cœur, c'est résister à l'urgence, ou au discours de l'urgence, résister aux injonctions à agir immédiatement sans prendre le temps de porter un regard critique sur les événements et sur les discours.
Merci. C'était Pourquoi pas des philosophes avec Pierre-Marie Morel, un éloge de la distance.